Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette édition consacrée au Venezuela avec cette question. Où va le Venezuela en ce jour d'élection présidentielle? Un pays qui s'enfonce dans la crise, un régime qui se radicalise. Nicolas Maduro, élu en 2013 après le décès du président Hugo Chavez, se présente pour un nouveau mandat. Considéré comme illégitime par le groupe de Lima, les États-Unis et l'Union européenne, l'élection est boycottée par la table de l'unité démocratique, coalition de l'opposition vénézuélienne, qui a refusé de participer à un processus qu'elle qualifie de chaud. Frauduleux. Analyse avec nos invités en duplex depuis les studios de nos confrères de France Bleu Isère à Grenoble, Célia Himmelfarb, économiste, directrice du master Amérique latine à Sciences Po Grenoble. Bonjour.
Bonjour.
En studio, Pierre-Jean Van Dorn, ancien ambassadeur de France au Venezuela et en Colombie, spécialiste de l'Amérique latine et secrétaire général du Club des 20, groupe de réflexion sur la politique étrangère de la France. Bonjour.
Bonjour.
Et Gaspard Estrada, directeur exécutif de l'OPAL, que l'Observatoire politique de l'Amérique latine et des Caraïbes au sein de Sciences Po Paris. Bonjour.
Bonjour.
Le Venezuela, un pays extrêmement riche en pétrole, un sixième des réserves prouvées de pétrole à l'échelle de la planète, un pays qui avait tout pour lui. Où se situent les responsabilités dans ce qui s'y passe aujourd'hui? Une élection boycottée par une grande partie de l'opposition. Le Venezuela connaît le plus grand désastre humanitaire qu'ait jamais connu le continent américain de toute son histoire. La situation économique est catastrophique. Les Vénézuéliens manquent de tout. Ceux qui le peuvent quittent le pays. La mortalité infantile est au niveau du Pakistan. La pauvreté est celle d'Haïti ou de l'Afrique subsaharienne. 4 hôpitaux sur 5 n'ont plus l'eau courante. Comment en est-on arrivé là? Qui est responsable de ce fiasco? En 2010, le pays était le plus égalitaire de toute l'Amérique latine et autrefois le plus riche d'Amérique latine. Célia Himmelfarb, l'histoire du Venezuela est-elle l'histoire d'une nation sacrifiée sur l'autel d'une idéologie périmée ou tout simplement l'histoire d'une clique prête à tout pour conserver le pouvoir et ses privilèges, ou bien peut-être les deux à la fois? Célia Himmelfarb.
Oui, je vais marquer certains points qui sont des points faibles de l'économie vénézuélienne qui conduisent à la situation actuelle, à une économie des rentes avec une reproduction sociale et politique de la classe dominante à l'heure actuelle, donc ce que vous appelez une clique. Par exemple, en 4 années, depuis 2015 jusqu'à 2018, le Venezuela a perdu 53% de son produit interne brut, qui est énorme. Au niveau de l'inflation, l'année dernière, le Venezuela avait déjà une hyperinflation de 652% et le Fonds monétaire international estime pour cette année, la plongée bas, 2349% du taux d'inflation.
On a même le chiffre de 13 800%, mais ça...
13 000, voilà, ça c'est le Fonds monétaire qui donne le plancher bas, et on arrive à 13 000%, c'est le plafond le plus haut pour les prévisions de 2018, vous avez raison. Solde public, donc presque de 19%, or, ce qui est demandé à un pays, c'est 3%. Et aussi, une dette publique qui n'est pas très importante, mais le Venezuela est, depuis le 7 novembre 2017, en défaut partiel de sa dette. Aussi, quand on estime la dette extérieure du Venezuela, et notamment 30% de la compagnie du pétrole, c'est elle aussi entre 120 milliards et 150 milliards. Donc le plancher est plus bas et le plancher est plus haut. Aussi, la réduction des importations, la réduction des exportations, une remontée de la pauvreté impressionnante. Donc on est à un PIB par habitant inférieur qu'avant l'arrivée de Chavez en 1998. Une immigration très forte aussi. L'économiste parlait des 1 400 000 personnes déjà immigrées parties, mais d'autres données parlent de 4 millions d'immigrés. Et puis un régime, effectivement, que, à travers le système des rentes du pétrole, veut demeurer au gouvernement, veut rester au gouvernement. Et ce qu'on appelle, nous, une reproduction sociale et politique par la base d'une économie des rentes. Et donc, c'est rester au pouvoir coûte ce qui coûte, avec une répression très importante et les rôles des différents pays dans cette répression justement de l'opposition.
Alors reste cette question, Pierre-Jean Van Dorn, Gaspard Estrada, comment est-ce qu'on en est arrivé là? Bien sûr, les chutes des prix du pétrole n'a évidemment rien arrangé, mais enfin, qui est responsable de ce fiasco, Pierre-Jean Van Dorn?
En fait, c'est je crois le résultat d'une longue histoire. J'ai relu, avant de vous retrouver ici, un éditorial resté fameux dans les mémoires vénézuéliennes, qui est dû à Uslar Pietri, un journaliste, un grand écrivain, c'est l'auteur des Lances Rouges, un formidable roman, un des plus beaux romans de la littérature vénézuélienne du XXe siècle, consacré aux luttes pour l'indépendance, et un personnage en particulier, José Bovis, qui était une sorte de Chavez dans son genre. Et dans cet éditorial intitulé « Sembrar el petróleo »,« Semer le pétrole », il lance un avertissement. Alors, si vous me le permettez, je voudrais relire simplement un passage parce que c'est prémonitoire et ce que ce pays vit aujourd'hui, c'est ce que Szilard Pietri, je ne sais pas si M. Estrada sera d'accord, décrivait en 1936, c'est-à-dire il y a 80 ans. Il parle d'un rêve suicidaire où quelques ingénus ou naïfs ont pour idéal de parvenir à payer la totalité de la dépense publique avec la seule rente minière. En réalité, ils pensent à l'ensemble du secteur extractif, notamment le pétrole, mais il y avait aussi du fer. Et d'ailleurs, le Venezuela a d'autres ressources que celles-là, en partie inexploitées. Je pense à la bauxite en particulier, dont il regorge. À payer la totalité de sa dépense publique avec la seule rente minière et faire du Venezuela un pays improductif et oisif, un parasite du pétrole nageant dans une abondance momentanée et corruptrice et courant vers une catastrophe imminente et inévitable quand il faudrait créer, consolider l'agriculture, l'industrie, créer des barrages, bref, semer le pétrole, c'est-à-dire investir dans d'autres activités que la seule reproduction de la rente pétrolière. Et c'est exactement ce à quoi on assiste aujourd'hui. Mais cette responsabilité, qui est d'abord, à mon sens, celle du régime, ces 20 ans de chavisme, où on a effectivement exploité à fond la rente pétrolière tant que cela a été possible, notamment en investissant, et ça c'est quand même un aspect positif de la révolution de Chavez, dans les programmes sociaux, les fameuses missions qui ont permis d'éradiquer l'extrême pauvreté, d'améliorer l'indice du développement humain reconnu par le PNUD et les Nations Unies, avant que cette rente ne commence à décroître du fait de la baisse des cours, mais aussi du fait de la destruction de l'appareil de production pétrolière. PDVSA est en ruine.
La grande société.
La première erreur de Chavez a été de mettre à pied la moitié des employés de la compagnie, parce qu'ils avaient commis évidemment le crime, de se mettre en grève. Ça a duré 2 mois, c'est le paro civico de l'hiver 2002-2003, qui va se traduire par un recul du PIB de 17% cette année-là, qui seront récupérés l'année suivante, ça c'est l'élasticité de l'économie. Mais c'est sa première erreur. La seconde, ce sera aussi de remettre en question les alliances stratégiques, les associations stratégiques que ses prédécesseurs avaient nouées avec les grandes compagnies occidentales, les majors, et notamment avec Total, qui était la première d'entre elles d'ailleurs. Total était, dans ces années-là, et quand Chavez arrive au pouvoir, et surtout dans les années qui ont suivi, le premier investisseur en Venezuela, toutes activités convaincues. Il a voulu reprendre la main, mais dans des conditions telles que cette reprise en main s'est traduite par une dégradation supplémentaire de la capacité du Venezuela. La deuxième erreur, c'est de ne pas avoir investi précisément cette rente pétrolière, comme l'y a invité Szilard Pietri, dès l'année 1936. Au soir de sa vie, le même Szilard Pietri, dans un livre d'entretien, revient sur la situation de son pays. Bien sûr, il commente déjà les premières années de Chavez, qui est au pouvoir depuis 2 ans. Et là aussi, il écrit ou il dit quelque chose de prémonitoire. Lorsqu'on écrira l'histoire du pétrole au Venezuela, ce sera épouvantable. Et l'épouvante, je crois qu'on y est en ce moment, quand on voit les conséquences humanitaires, sanitaires, économiques, enfin de tous ordres, de la situation. Mais encore une fois, je crois qu'il y a historiquement une responsabilité partagée. On ne peut pas incriminer, quelle que soit l'imbécilité, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. La corruption, le niveau de corruption, la bêtise des dirigeants actuels, c'est le seul régime bolivarien et chavis. Je crois qu'il y a des racines beaucoup plus profondes dans l'histoire de ce pays, malgré les efforts des gouvernements de la 4e République, c'est-à-dire Bettencourt et ses successeurs, et même de certains dictateurs avant, pour essayer de semer le pétrole. Mais ils n'ont pas fait assez.
Alors le pétrole, c'est une chose, et je me tourne vers vous, Gaspard Estrada, mais effectivement, on parlait de 20 ans de Chavez, il y a eu de bonnes choses, de moins bonnes choses. L'exécutif socialiste a imposé une main de fer sur l'économie, nationalisant des secteurs entiers comme le ciment et l'acier, tout en expropriant des centaines d'entreprises. Il a aussi imposé un contrôle des prix, ce qui a déprimé l'industrie. Un chiffre tout de même étonnant, mais qui permet d'éclairer la situation. Les entreprises couvraient avec leur production 70% de la consommation en 2008, c'est 20% en 2018. Gaspard Estrada.
Oui, je pense que vous avez raison de mentionner ces chiffres. Je pense qu'il y a un autre élément qui est essentiel pour comprendre la crise, le drame de l'économie vénézuélienne, c'est le contrôle des changes. Vous ne l'avez pas évoqué, mais en 2003, parallèlement à justement cette reprise en main de l'entreprise publique, donc d'exploitation du pétrole, PDVSA, la Banque centrale vénézuélienne a imposé un contrôle d'échange et notamment vis-à-vis du dollar. Et aujourd'hui, on voit bien le coût pour l'économie vénézuélienne de ce strict contrôle d'échange. Parce que, in fine, cela revenait à donner le monopole du commerce international à la Banque centrale parce que c'est elle, de fait, qui contrôle, qui peut et qui n'a pas accès au dollar. Et donc, de ce fait, qui peut aller à l'étranger pour importer les biens dont le Venezuela a besoin. Étant donné que l'économie vénézuélienne dépend à 90%, voire plus, de l'exportation du pétrole, du brut. Et donc, pour importer le reste, il faut avoir accès au dollar. Et c'est ce qui permet aussi d'expliquer pourquoi il y a eu ce phénomène de cartélisation et donc l'apparition de phénomènes de corruption liés aux personnes qui pouvaient être proches du régime et qui pouvaient avoir accès au dollar. Et c'est ce qui permet d'expliquer pourquoi aujourd'hui, en partie, la monnaie vénézuélienne a ce problème d'inflation et a ce problème de liquidité. Aujourd'hui, il y a quelques mois, le président Maduro a même lancé une crypto-monnaie, le pétro, justement pour essayer de faire face à ce problème central qui est la perte de pouvoir, de valeur de la monnaie vénézuélienne. Et ce qui met dans une position extrêmement difficile la population vénézuélienne qui, elle, n'a pas accès justement à ces leviers de pouvoir et qui survit aujourd'hui.
Alors, justement, ces questions de migratoires, Célia Imelfarb, alors, on a entendu Maduro soutenir que la situation était la conséquence d'une guerre économique livrée par la droite vénézuélienne et les États-Unis, tout cela avec pour objectif de le renverser. Quelques mots sur la crise migratoire, c'est évidemment une menace pour la stabilité des pays voisins du Venezuela, à commencer par la Colombie, pays le plus impacté, les îles des Caraïbes, il y a aussi le Pérou, l'Argentine, le Brésil, autant dire que
Panama.
Le problème du Venezuela, c'est un problème régional.
Bien sûr. C'est la première fois, hormis le Mexique et les nombres des Mexicains qui veulent essayer de passer aux États-Unis, c'est la plus grande masse d'immigration et en Amérique latine depuis très longtemps, si vous voulez. Toujours, il y a eu des masses migrations, des Boliviens, des Péruviens qui arrivaient en Argentine ou des Argentins qui partaient à 1,5 million de circonstances plutôt politiques et qu'économiques. Mais là, c'est une crise politique, économique. C'est des exilés économique surtout, mais aussi politique. Et donc, effectivement, ça peut déstabiliser un peu la Colombie aussi. Je sais qu'en Argentine, la masse des Vénézuéliens qui arrivent et qui acceptent n'importe quel travail, pareil au Chili, au Panama, et c'est une situation assez dramatique pour ceux qui migrent, mais ceux qui restent aussi. Et le plus grave, à mon avis, c'est qu'il y a une fuite de capitaux très important du Venezuela, mais les pauvres ne peuvent pas fuir comme les capitaux, vous voyez. C'est-à-dire que les frontières des autres pays latino-américains sont en train de s'enfermer. Je voudrais dire aussi quelque chose qui est lié entre l'immigration, les politiques de rétorsion, et etc. On pense que, comme Maduro dit, les États-Unis veulent provoquer un changement de régime au Venezuela. C'est pas avec Trump qui commence la crise entre les États-Unis et le Venezuela.
Bien sûr.
J'ai repéré depuis 2014, Barack Obama déjà a mis les premières mesures de rétorsion. Ça voulait dire qu'il a sanctionné déjà des fonctionnaires vénézuéliens à cause des violences de l'année 2014. Au printemps 2017, déjà Trump au pouvoir, bien sûr, et à le moment de la création de l'Assemblée constituante, qui est complètement illégitime, si vous voulez, entre le 26 juillet et le 9 août 2017, un décret présidentiel de Donald Trump met en place des sanctions économiques. Interdiction d'acheter de nouveaux titres de la Banque centrale du Venezuela. Limite les échanges au marché secondaire, que c'était des titres en économie, on appelle des titres qui existaient déjà. Et il y a un défaut partiel de paiement des 70%. Le décret présidentiel de Donald Trump du 25 août 2017, c'est très récent, même pas un an, interdit à tout fonds de pension de participer aux renégociations de la dette extérieure et des actifs vénézuéliens. Et le pire qu'a pu faire aussi le régime de Maduro, c'est avoir créé un comité des créanciers, a convoqué une commission des créanciers, et ce comité vénézuélien est présidé par Tarek El Haïsimi, qui est le vice-président du Venezuela, d'origine libanaise, qui est demandé par les États-Unis, il y a une demande d'arrestation internationale, parce qu'il est lié au trafic de la drogue entre le Venezuela et les cartels mexicains, et aussi parce que c'est les liens, si vous voulez, entre un monde qui est l'Amérique latine, donc le Venezuela et les Moyen-Orient, et notamment les Libans, et l'intervention, si vous voulez, du Hezbollah au Venezuela. Donc, c'est, je dirais qu'à l'heure actuelle, le Venezuela, c'est une ligne de faille qui rassemble beaucoup, beaucoup de choses, qui refuse l'Europe, qui refuse aussi les États-Unis, bien avant Trump.
Alors, il faut. Sur le plan politique, j'aimerais qu'on dise quelques mots sur la situation au Venezuela. Avec cette élection, Pierre-Jean Vandorme et Gaspard Estrada, le pari du régime, c'est de sortir renforcé de ce scrutin pour lancer des changements de fond dans le pays à travers l'Assemblée constituante et mettre en place un système politique plus contrôlable comme il l'est à Cuba. Ce sera peut-être l'occasion de parler de Cuba. Mais dans un premier temps, qu'est-ce qui va se passer au lendemain de l'élection? C'est un peu le jour d'après, Pierre-Jean Vandorme.
On se situe bien sûr dans l'hypothèse probable d'une victoire de Maduro. L'inconnu, c'est le taux de participation. C'est important pour lui, parce que si le taux de participation est, mettons, de 20% du corps électoral, ça réduira d'autant la crédibilité de sa réélection.
Enfin, c'est un fin politique, Monsieur Maduro. On sait par ailleurs que les gens qui iront voter reçoivent de l'argent. En tout cas, il y a un intérêt à aller voter.
Dire que c'est un fin politique, je m'en garderai bien. Je pense que de finesse politique, il n'en a aucune. C'est un dictateur, mais qui est la figure de proue, en réalité. Alors, peut-être pas d'une clique, mais d'un groupe où on retrouve la famille de Chavez. L'un de ses frères est aujourd'hui gouverneur de l'état de Barinas, qui est son état de naissance, dans les Llanos. Hein. Il a succédé d'ailleurs à son frère aîné, Adam, qui lui-même avait succédé au père. Là, il y a une dynastie de Chavez qui gouverne depuis maintenant des années cet état de Barinas, où, entre parenthèses, nous avons eu 3 enlèvements de Français quand j'étais ambassadeur là-bas, par la guérilla colombienne. Je me suis souvent interrogé sur le degré de complicité ou de permissivité qu'il y avait à l'époque entre, pas simplement le gouverneur, mais le président, et les libertés qui étaient concédées à la guérilla. Mais pour en revenir au lendemain de l'élection, donc on se situe dans l'hypothèse d'une réélection de Maduro, bien entendu, il estimera, comme il l'a déjà dit d'ailleurs après l'élection, les élections régionales, qui se sont soldées par une victoire de ses candidats, élection probablement frauduleuse, avec la complicité du Conseil national électoral, qui comporte 4 chavistes parmi ses 5 membres, et un seul opposant virtuel, disons, mais qui ne peut pas grand-chose, Madame Tibisay Lucena, étant présidente de ce Conseil national électoral depuis des années. Et on sait très bien que le régime, depuis Chavez, sait comment ne pas perdre une élection. Donc, il risque fort de l'emporter. Mais il va considérer ou présenter cela comme une légitimation de ce qui a été fait ces dernières années. Mais cette élection est avant tout destinée à assurer sa survie et celle de ceux qui l'entourent du régime. Ailleurs, il serait tombé depuis longtemps, vu les mobilisations auxquelles on a assisté encore l'année dernière, 2017, avec ces grandes manifestations, vu aussi l'attitude de la communauté internationale. Le pays est extraordinairement isolé. On pourra parler de ce qu'il peut compter aujourd'hui encore comme allié, mais surtout compter ses adversaires.
En tout cas, sur le plan intérieur, et ce sera peut-être...
Donc c'est sa survie qui est en cause. Alors que va-t-il faire ? Bien sûr, la constituante va nous pondre une nouvelle constitution qui va probablement dépouiller ce pays de ce qu'il reste encore de mécanismes démocratiques, c'est-à-dire de ce que dans la constitution héritée de Chavez, c'était une constitution extrêmement démocratique. Mais dans le fonctionnement, ça n'a pas été exactement la pratique. Donc, une nouvelle constitution qui conduira à dépouiller ce pays de ce qu'il reste, encore une fois, d'institutions, de mécanismes démocratiques, et qui nous rapproche quand même, je suis désolé de le dire, du système cubain. Alors, on parlera peut-être aussi du rôle des conseillers cubains dans la révolution bolivarienne. Il est immense, bien entendu. Aujourd'hui encore, Maduro a été formé à Cuba. Delcy Rodriguez, président de l'Assemblée nationale constituante, également.
On développera dans la deuxième partie de l'émission et on parlera notamment des militaires, en rappelant que sur les 32 ministres, 14 sont militaires. Il y a eu des promotions grade de général à tout va durant la première présidence Maduro, et des généraux à la tête des entreprises vénézuéliennes. Géopolitique, nous retrouvons nos invités Pierre-Jean Vandorme, Gaspard Estrada et Célia Imelfarm dans quelques instants.
Géopolitique. Marie-France Chatin.
Géopolitique, où va le Venezuela en ce jour d'élection présidentielle? Nous retrouvons nos invités en duplex depuis les studios de nos confrères de France Bleu Isère à Grenoble. Célia Himmelfarb, économiste, directrice du Master Amérique latine à Sciences Po Grenoble. Pierre-Jean Van Dorn, ancien ambassadeur de France au Venezuela et en Colombie, spécialiste de l'Amérique latine et secrétaire général du Club des 20, un groupe de réflexion sur la politique étrangère de la France. Et Gaspard Estrada, directeur exécutif de l'OPALC, l'Observatoire politique de l'Amérique latine et des Caraïbes, au sein de Sciences Po Paris. Nous avons quitté la première partie de l'émission en abordant la question de l'armée. Avec cette question, est-ce que l'élection aurait pu se tenir sans le soutien des militaires? Pour mémoire, sur les 32 ministres du gouvernement Maduro, 14 sont militaires. Le président Maduro a procédé à des promotions au grade de général un peu à tout va, Gaspard Estrada. Il y a aussi des généraux à la tête des entreprises vénézuéliennes. Si Maduro se maintient au pouvoir, c'est vraiment grâce à l'armée?
En bonne partie, oui, parce que Maduro, qui lui est un civil, contrairement à Chavez qui était un militaire, a besoin de l'armée pour pouvoir tout d'abord assurer l'ordre et avoir le contrôle de l'État, sachant que les conditions politiques d'arrivée de Maduro au pouvoir sont très différentes des conditions politiques d'arrivée au pouvoir de Chavez. Lorsque Maduro arrive au pouvoir en 2013, la crise économique commence déjà à être visible. On sort d'un cycle électoral important au Venezuela en 2012, où Chavez obtient la présidentielle avec 55% des voix, mais il y a une érosion par rapport aux années antérieures, et le contexte d'élection et de succession de Chavez est difficile, parce que les militaires, notamment Diosdado Cabello, exigeaient, souhaitaient que ce soit un des leurs qui remplace Chavez à la tête de l'État. Or, c'est un civil, Maduro, qui a été désigné par Chavez. Et donc, il y a une sorte de tension entre les militaires et ce civil. Et donc, c'est pour pouvoir garantir un certain consensus, une certaine cohésion de ces différents groupes chavistes, que Maduro, paradoxalement, a donné beaucoup plus de place aux militaires au sein des grandes institutions publiques. La dernière en date, c'est PDVSA. L'année dernière, Maduro a nommé un militaire à la tête de cette entreprise, un militaire qui connaît rien au secteur pétrolier. Et je pense que, paradoxalement, c'est justement le fait que ce soit un civil qui a permis à l'armée d'avoir cette place aujourd'hui au sein de l'appareil d'État. Alors, cela étant dit, est-ce que l'armée soutiendra jusqu'au bout le gouvernement Maduro? Ça reste une inconnue. D'ailleurs, il y a très peu d'études de fond sur justement la place des militaires, d'autant plus que, comme vous l'avez souligné, l'armée a énormément évolué au cours de ces dernières années, non seulement par rapport au nombre de militaires qui composent cette armée, il y a eu énormément de recrutement ces dernières années, mais aussi au niveau de la hiérarchie, de la classe dirigeante de l'armée. Vous avez évoqué le nombre de généraux, les nombres de promotions. Bah, cela, de mon point de vue, est le reflet justement de cette fuite en avant de la part du gouvernement pour essayer de contrôler ce corps militaire qui, aujourd'hui, est stratégique.
Alors, quelques mots sur l'opposition. On n'en a pas parlé, sauf en introduction, pour dire que l'élection présidentielle était boycottée par la table de l'Unité démocratique, qui est donc une coalition de l'opposition vénézuélienne. Célia Himmelfarb, Pierre-Jean Van Dorn, l'opposition vénézuélienne, une opposition très divisée et qui ne constitue pas un contrepoids suffisant, Célia Himmelfarb?
Oui, il y a deux sources, si vous voulez, des non-participations aux élections, qui sont importantes. D'abord, la messe de l'Unidad Democrática, si vous voulez, que c'est un lien entre des anciens partis, effectivement, et l'écopée, la démocratie chrétienne et la social-démocratie. Mais ils ont gagné le pouvoir législatif avec 65% en 2015. Hein, il faut pas négliger. Maintenant, ils sont très divisés, mais il existe toujours cette messe de l'Unidad Democrática. Donc, ça, c'est un pourcentage important, si vous voulez, des non-participations. Et puis, les exilés dont vous parliez, économiques et politiques, ne participeront pas non plus. Et si la marche, c'est 1 400 000 jusqu'à 4 millions de personnes qui sont immigration, aussi, ça s'additionne, vous voyez, entre l'opposition et les immigrés, ça sera un pourcentage très important aussi, qu'ils ne voteront pas. Donc, ça veut dire que la représentation politique sera celle de Maduro. Et ça peut varier, si vous voulez, aussi le pourcentage, mais toute l'opposition religion ne sera pas présente. Bien sûr que ça compte beaucoup le fait que la Mesa de Unidad Democrática n'est pas un vrai parti d'opposition et que ne rassemble pas plus. Mais ça existe aussi un clientélisme à l'heure actuelle dont vous parliez, que Maduro distribue à l'heure actuelle dans certains quartiers de la nourriture, etc., en échange de voter pour lui. Ça, c'est typique de tout gouvernement populiste, clientéliste qu'on a vu en Amérique latine. Hein. Ce qui va voter pour lui, c'est les plus rapprochés ou ceux qu'il a achetés par ses clientélismes politiques, économiques dont je parle, bien sûr.
Pierre-Jean Vandamme, pour finir avec les questions intérieures au Venezuela, la société vénézuélienne, c'est une société extraordinairement polarisée.
Oui, cette polarisation a commencé évidemment avec Chavez. Je voudrais revenir un instant sur l'opposition. D'abord, il faut savoir que ceux qui la soutiennent, ceux qui en font partie, et même certains de ses dirigeants, ont contribué à l'arrivée de Chavez au pouvoir en 1998. Chavez est arrivé sur les décombres de la Ve République et après l'échec ou les échecs successifs d'abord de Carlos Andrés Pérez et quant à son successeur, le président Caldera, qui lui aussi a fait un second mandat. Il a rompu avec le pacte de Punto Fijo, hein, qui unissait le Parti de la démocratie chrétienne, son parti et le Parti de l'action démocratique, c'est-à-dire la social-démocratie vénézuélienne. Il a créé une grande coalition nationale, mais il n'est pas parvenu à redresser la situation dans laquelle se trouvait le pays, à telle enseigne que on a failli élire une reine de beauté, parce que avant que Chavez ne s'impose comme le candidat qui va être élu président avec le soutien de l'opposition et avec, au sein de son premier gouvernement, des gens issus de cette opposition actuelle. Carmen Ramia, l'épouse du directeur du quotidien El Nacional, le principal quotidien de référence vénézuélien, était sa ministre de la Culture. Et quand elle voit que le régime évolue vers une sorte de cubanisation, en tout cas c'est sa crainte, à ce moment-là, elle décide de se débarrasser de Chavez et elle va tout faire à l'envers. Un coup d'État foireux, ça ne marche pas. C'est techniquement réussi, mais politiquement désastreux. Ensuite, elle se lance dans ce qu'on appelle le paro civico, une grève insurrectionnelle, avec notamment la grève de la compagnie pétrolière. Ça va durer 2 mois. Et là aussi, il va s'en sortir. Et finalement, elle se souvient qu'il y a une constitution et une procédure qui est possible. C'est le référendum révocatoire que Chavez va remporter, mais moyennant un tour de passe-passe, en faisant durer les opérations électorales jusqu'au lendemain, 5h du matin, et en allant chercher des électeurs récalcitrants, sinon il l'avait techniquement perdu à la clôture. Donc elle a sa part de responsabilité dans la situation, parce qu'évidemment il ne va pas pardonner, et là, il va prendre sa revanche progressivement. Alors, elle va finir l'opposition par gagner les élections, et assez brillamment. Elle a même la majorité qualifiée à l'issue, mais là, on va la priver des 3 sièges nécessaires pour avoir cette... En invalidant le Conseil national électoral, le tribunal plutôt de supérieur de justice, l'élection de 3 députés des régions amazoniennes. Elle perd et elle ne pourra jamais légiférer. Mais cette opposition... Il faut bien le dire aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle propose ? Très honnêtement, on ne voit pas grand-chose dans un programme de redressement qu'elle proposerait aujourd'hui au pays, il faut bien le dire.
Gaspard Estrada.
Oui, non, moi je pense que la question de fond, c'est que le problème de l'opposition, c'est un problème de stratégie. Depuis 2006, depuis les années Chavez, en quelque sorte, il y a toujours eu une hésitation quant à la stratégie à adopter pour, in fine, obtenir d'abord le départ de Chavez, puis de Maduro, et de avoir le pouvoir. Une stratégie qui était celle qui avait été incarnée jusqu'à il y a quelques années par Enrique Capriles supposait la participation au jeu institutionnel. Cela veut dire participer aux élections. C'est ce que Capriles a fait en 2012, c'est ce qu'il a fait en 2013. Et face à lui, Leopoldo López a lui toujours tenté, en tout cas depuis 2013 très clairement, une stratégie que je dirais de insurrectionnelle ou en tout cas de non-participation aux institutions du chavisme. Et donc, de ce point de vue-là, Leopoldo López, durant l'année 2013, a demandé la mobilisation des citoyens vénézuéliens pour aboutir à une chute du gouvernement Maduro en ne reconnaissant pas les élections. Jusqu'à l'année 2017, il y avait, en quelque sorte, cette hésitation entre 2 grands leaderships, Capriles et Leopoldo López. Or, en 2017, le gouvernement Maduro a retiré les droits politiques d'Enrique Capriles. Et donc, de ce point de vue-là, il a permis à ces deux figures de se retrouver sur une plateforme minimale, c'est-à-dire aujourd'hui l'opposition vénézuélienne, en tout cas celle qui est, disons, incarnée par ces 2 leaders, ne peut plus participer au jeu politique institutionnel. Le problème, c'est que suite à cette interdiction, le gouvernement s'est mis à organiser des élections régionales, des élections locales, où, à nouveau, il y a eu cette question de la participation ou non de l'opposition à ces élections et qui se sont traduites sur le plan politique par une victoire du madurisme. Et aujourd'hui, on se retrouve face au même cas de figure. Doit-on participer ou ne doit-on pas participer à ces élections? Et donc, de ce point de vue-là, il y a ce problème stratégique, même si je pense qu'aujourd'hui, compte tenu de la situation et compte tenu aussi de la dégradation du processus électoral en lui-même, je pense qu'aujourd'hui, l'opposition, elle est beaucoup plus encline à ne pas reconnaître ces institutions. Un, parce que tout d'abord, le calendrier électoral n'a pas été respecté. On a bien vu que la manière dont les élections ont lieu, l'achat de voix auquel vous avez fait allusion de la part du gouvernement, contribue à délégitimer ces élections. Et aujourd'hui, on se retrouve face à un vrai problème politique. Parce que ce qui se passera demain, c'est que la question de la reconnaissance de ces élections sera au fond, le véritable enjeu. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, Maduro gagnera les élections. La question de fond, c'est est-ce que cela sera reconnu par la communauté internationale?
Alors la communauté internationale qui se divise en plusieurs groupes, hein, on va l'évoquer, oui, c'est régionalement les voisins, ce sont les États-Unis, c'est l'Union européenne. Justement, pour parler de la région latino-américaine, oui. Le dernier sommet des Amériques de Lima en avril dernier, Maduro s'est vu refuser l'entrée sur le critère de l'absence de démocratie au Venezuela, ce qui laisse un peu interrogatif quand on pense au Nicaragua, à Cuba, voire le Honduras. Alors on va justement parler de Cuba. Après l'implosion de l'URSS, Castro a renoué avec Caracas. Le pétrole a été la clé de voûte de la relation entre les deux pays. Sur le plan international, le plus grand accomplissement du couple Cuba-Venezuela, c'est l'Alliance bolivarienne pour les peuples de notre Amérique, l'ALBA, de plateforme d'échanges commerciaux, elle est devenue une plateforme politique. Cette question à propos de Cuba, la Havane a-t-elle un rôle positif ou négatif dans la crise vénézuélienne? Célia Melfarb.
Le lien des Chavez et des Fidel Castro était très très important. Je pense que Fidel Castro a dû contribuer beaucoup dans la formation aussi idéologique de ces secteurs de l'armée vénézuélienne avec les coups d'État de 93 et dans cette formation qu'on dit de Chavez arrive au marxisme, etc. Par la suite, il y a 40 000 coopérants cubains au Venezuela. Tous ne sont pas des médecins. La plupart, ce sont des militaires. Et des militaires qui forment des militaires vénézuéliens depuis longtemps et qui participent à la répression à l'heure actuelle. Aussi, il y a des médecins qui font partie des dispositifs pétrole contre médecins. Hein, c'est un échange de compensation. Cuba continue à soutenir Maduro. Il continue par cette solidarité des frères et solidarité au sein de l'ALBA. Et concernant l'ALBA, l'ALBA, je dirais qu'elle n'est pas une alliance bolivarienne. Lorsque Simon Bolivar, et j'invite tout le monde à relire Simon Bolivar, parce que Simon Bolivar parlait des États-Unis de l'Amérique latine, mais pas dans le sens de l'ALBA actuelle, l'alliance bolivarienne, parce que Simon Bolivar pensait à une structuration politique, économique des valeurs qui étaient les siècles des Lumières pour l'Amérique latine et pas un diktat idéologique et un commerce des compensations. Donc c'est une contradiction énorme entre ce que l'ALBA dit, c'est un non-sens, c'est la pensée bolivarienne dévoyée. Puis quand vous voyez quels sont les pays qui en font partie, hein, comme vous disiez, Nicaragua, Cuba, etc., qui soutiennent très fortement le Venezuela actuel. Et c'est pas les seuls thèmes où la pensée bolivarienne était dévoyée, hein. La séparation des pouvoirs. Et ça, à l'heure actuelle, c'est la pensée bolivarienne encore dévoyée parce qu'il n'y a pas de séparation des pouvoirs, au Venezuela. Deuxième chose.
Très rapidement, le Mercosur, parce qu'il nous reste trois minutes.
Rapidement. Le Mercosur n'a pas exclu à retirer la participation de Venezuela.
Le Mercosur, c'est Brésil, Argentine, Uruguay, Paraguay.
Uruguay, Paraguay ne respecte pas les protocoles du choix. Il y a, ça veut dire la clause démocratique. Lorsque vous dites que dans les sommets de Lima n'a pas été admise. Ok, il y a d'autres pays aussi, mais ça a marqué le coup que aussi on a exclu le Venezuela parce qu'il ne respecte pas les droits de l'homme. La Commission interaméricaine des droits de l'homme aussi a dénoncé, l'Organisation des États américains aussi, l'Union européenne dénonce fortement le non-respect des droits de l'homme. Le Venezuela est très isolé au niveau international, extrêmement isolé. Les aides viennent de la Russie, la Chine, l'Iran, C'est eux qui soutiennent financièrement à l'heure actuelle. L'OPEP, les Qatars et les Émirats Arabes Unis. Ce monde qui les soutient est un monde du passé, en quelque sorte, mais qui continue à le soutenir.
Oui, mais il est vrai que l'isolement international de Maduro provient aussi de la fin du cycle des gouvernements progressistes latino-américains. Alors, c'est très fini. Rapidement, Pierre-Jean Van Dorn, Gaspar Estrada, beaucoup de choses qui se sont dites et beaucoup de choses qu'on n'a pas encore eu le temps de dire. Donc, Cuba, l'un des acteurs clés de la résolution du conflit. Que se passera-t-il le jour d'après, c'est-à-dire demain, non-reconnaissance de l'élection présidentielle au Venezuela? Qu'est-ce que ça veut dire? Et en particulier, comment les États-Unis vont-ils réagir? De nouvelles sanctions? Un embargo sur le pétrole assez peu probable. Les États-Unis restent le premier client et le premier fournisseur du Venezuela. Oui. On a évoqué une possible éventuelle action militaire des États-Unis. Pierre-Jean Van Dorn et Gaspar Estrada, en conclusion.
Écoutez, sauf si M. Bolton prend le dossier en main, on peut écarter quand même l'éventualité d'une intervention militaire. Ça n'est plus l'usage depuis longtemps en Amérique latine. Cuba, oui, Castro a accueilli Chavez lors de sa traversée du désert. Il avait une formation idéologique et il continue, alors on va parler des médecins, etc., les commissaires politiques auprès de l'armée. Je connais un général, le général Ribeiro, ancien patron de la sécurité civile, qui a démissionné parce qu'il ne supportait plus la présence à ses côtés d'un militaire cubain, qui était là comme un commissaire politique à l'époque de la révolution d'octobre, pratiquement. Les médecins ont joué un rôle quand même important. Je veux dire, la mission Barrio Adentro, s'il ne fallait n'en sauver qu'une seule, l'accès aux soins de santé primaires, c'est quand même un progrès. Mais ça a contribué aussi à l'assèchement, malheureusement, des devises nées d'une rente pétrolière déclinante. En ce qui concerne le reste de la communauté internationale, imaginons un instant que Falcon soit élu, on serait bien embarrassé, puisqu'on a par avance...
Falcon qui est le candidat...
Oui, le candidat d'opposition, on ne sait jamais, un accident est possible. Eh bien, on a décliné par avance, si vous voulez, toute légitimité à cette élection. Enfin, ça ne risque pas de se produire. Alors, faut-il rappeler les ambassadeurs qui sont accrédités auprès du président Maduro. C'est une vraie difficulté, mais le peuple est épuisé, la population est épuisée, les fonctionnaires n'en peuvent plus, et donc c'est l'exode qui va se poursuivre. Juste un chiffre, le HCR, aujourd'hui évalué à 1 800 000 le nombre de réfugiés, mais il s'attend sur le rythme actuel, au lendemain d'une élection gagnée par Maduro, à ce que dans l'année 2018, ce chiffre double. C'est-à-dire qu'il y a à nouveau 1 800 000 réfugiés et migrants.
Gaspar Estrada, dernier volet de la conclusion.
Oui, je pense que cette question est la question de fond, avec la question aussi de l'économie, parce qu'il y a cette hyperinflation, c'est un phénomène auto-entretenu, et donc l'histoire économique nous montre que ces phénomènes d'hyperinflation finissent par faire que les régimes tombent. Donc, est-ce que cela sera à court, à moyen, à long terme? Je ne le sais pas. En revanche, ce qui est très clair, c'est qu'il y aura une réaction de la communauté internationale qui sera différente par rapport à ce qui a eu lieu en 2013. Et en France, il y aura un discours du président Emmanuel Macron à l'occasion de la semaine de l'Amérique latine, quelques jours après cette élection présidentielle, et étant donné qu'il a déjà qualifié le Venezuela de dictature, on peut peut-être s'attendre à une déclaration de sa part.
Pierre-Jean Van Dorn, alors une seconde.
Oui, juste pour rendre hommage quand même à l'élan de solidarité manifesté par les pays voisins, je veux dire, la Colombie, bien sûr, le Pérou, même l'Équateur bolivarien accueille des réfugiés, le Chili avec le visa de responsabilité et de solidarité démocratique, l'Argentine. Et je crois qu'il faut rendre hommage justement aux chefs d'État, aux responsables de ces pays, tous ceux qui accueillent ces réfugiés et ces émigrants à bras ouverts.
La crise vénézuélienne,
je crois que ça doit être
régional,
dit.
Oui.
Pour vos auditeurs, je crois qu'il faut le dire.
C'est la fin de Géopolitique. Merci à nos invités. Pierre-Jean Van Dorn, je rappelle que vous êtes ancien ambassadeur de France au Venezuela et en Colombie, spécialiste de l'Amérique latine et secrétaire général du Club des 20 groupes de réflexion sur la politique étrangère de la France. Merci à Célia Imelfarb qui était avec nous en duplex depuis les studios de nos confrères de France Bleu Isère que nous remercions à Grenoble. Célia Imelfarb qui est économiste, directrice du Master Amérique Latine à Sciences Po, Grenoble. Et Gaspar Estrada, directeur exécutif de l'OPAL, que l'Observatoire politique de l'Amérique Latine et des Caraïbes au sein de Sciences Po Paris. Géopolitique, émission signée Marie-France Chatin, Véronique Durand et Nathalie Laporte. À